France Inter.
Merci Flore. Le prochain flash dans une heure à 17h sur France Inter.
La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec Laurie Lefebvre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au cours de mes interventions dans cette émission sur l'inconscient, j'ai choisi de vous parler d'une parole entendue lors d'une séance. Une parole qui peut être celle de beaucoup d'entre nous, d'une expression, d'un mot, pour vous évoquer la façon dont j'exerce la psychanalyse. La façon dont on peut entendre l'inconscient et travailler avec l'inconscient. La façon d'être traversé par l'inconscient. Lors de la dernière émission, je vous ai parlé du sentiment d'étrangeté, des impressions de déjà-vu, des moments d'angoisse ou de panique. Aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous sur la honte, le sentiment de honte. Ces instants durant lesquels on voudrait disparaître, tant le regard de l'autre nous transperce, tant le jugement des autres nous anéantit. Un patient me dit qu'il a eu vraiment honte de ses parents. Ses parents qui ne ressemblaient en rien à ce qu'il imaginait être un père et une mère, comme il faut, selon son expression. Il dit « Ma honte sociale m'a longtemps inhibée. Mes parents étaient des pauvres, sans éducation. Leur seule joie était que je réussisse dans le monde, disait-il. » Il poursuit « Il voulait que j'aille dans un monde qui n'était pas le mien, dont je n'avais pas les codes sociaux. » Et il me dit encore « J'ai réussi. » J'ai honte de cette réussite et j'ai toujours honte d'eux. Un autre patient parle de sa honte d'être homosexuel. Honte qui ne l'a jamais vraiment quittée, malgré les mouvements récents de libération sexuelle. Il me dit « Il ne suffit pas d'être accepté par les autres, encore faut-il s'accepter soi-même. » Une jeune femme, un jour, lors d'une séance, raconte comment elle est honteuse de vivre avec un homme plus âgé que son père. Il n'était pas question pour elle de le présenter à ses parents. « Trop honteuse », dit-elle. Elle vit cette relation dans le secret et la clandestinité. Après un long silence, elle ajoute « J'ai honte de cette honte ». Après avoir partagé avec vous ses réflexions sur la honte, ces instants durant lesquels on garde un secret, ces moments où l'on se cache, persuadé que si l'on était découvert, on serait rouge de honte, je répondrai aux questions que m'ont adressées celles et ceux qui ont déjà écouté ce podcast, disponible sur toutes les plateformes d'écoute et dans l'application Radio France.
L'inconscient, avec Laurie Lefebvre, sur France Inter.
Elle continuait à pleurer, elle cherchait un mouchoir, elle n'en avait pas, je lui ai tendu le mien. Elle s'est tamponnée vaguement les yeux, elle a fait le geste de me le rendre, je fais signe de le garder. Je suis sûr qu'à ce moment-là, elle devait me haïr. Alors je suis resté là, comme ça, un instant, à la regarder pleurnicher, très gêné, content que mon coup ait porté, mais en même temps un peu écœuré. Oui, j'avais honte d'avoir été jusqu'à la faire pleurer. Ou plutôt, j'avais honte pour elle. Oui, je pensais qu'elle devait avoir honte de s'être laissée aller à pleurer devant un étranger, et ça me gênait.
Les motifs pour lesquels on éprouve de la honte sont très nombreux. Honte de soi, honte sociale, honte d'une maladie. Cette dernière raison peut sembler étrange, mais ne dit-on pas encore parfois « maladie honteuse » pour signifier les maladies causées par des relations sexuelles ? On pense aux personnes qui, dans les années 1990, ressentaient de la honte à dire qu'elles étaient séropositives. Et l'on voit souvent cet euphémisme « mort d'une longue maladie », pour ne pas dire vraiment la cause, comme s'il y avait des mots que l'on ne pouvait prononcer par peur d'être jugé, d'être voué à l'opprobre et au mépris. La honte semble liée à un secret qu'il faudrait bien garder. Il y a aussi la honte d'une ascendance, un membre de la famille fou, ou ayant fait de la prison, ou ayant été tué, ou ayant commis un crime. Honte d'une descendance, un fils qui vous rejette, une fille si différente de ce que l'on avait projeté. Ces filiations entrent alors dans le secret honteux des familles. Il y a la honte lourde d'un inceste resté secret. Certains patients parlent de crypte pour ce secret si lourd à porter. D'autres évoquent quelque chose de bizarre qui se serait passé dans la famille. Cette honte circule dans les familles et parfois le patient, la patiente, se sent la responsabilité de percer ce secret, comme s'il fallait laver l'honneur de la famille. Une patiente raconte comment elle a été, selon ses termes, assourdie par le silence bruyant autour de l'histoire d'un grand-père collaborateur lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle fait le lien entre cette honte et la hantise qu'elle a des fantômes. Il y a la honte des femmes qui subissent des violences, qui entrent alors dans un silence parfois terrorisé. Pourquoi les femmes violentées ou agressées au sein de leur couple sont-elles si peu nombreuses à parler de cette violence ? La honte les enferme dans le silence. Honte non seulement de ce qu'elles subissent, mais honte aussi de ne pouvoir ou avoir la force d'en sortir. Il y a la honte de ses origines, de sa sexualité, de son métier, de son partenaire, honte de ses enfants, honte de ses parents. Quel est donc cet affect désagréable qui fait que le sujet se sente, se vive, si petit par rapport à ce qu'il imagine devoir être, pouvoir être ou désirer être ? Quel est ce mécanisme qui fait que le sujet ne se sent pas, comme il le dit souvent en séance, à la hauteur ? D'ailleurs, à chaque fois que j'entends cette expression « à la hauteur », je ne peux que répondre « mais à la hauteur de qui ? À la hauteur de quoi ?» On entend là souvent toute la part d'imaginaire de cette supposée hauteur. Car quelque chose de haut, d'en haut, regarderait le sujet et le jugerait. Vous avez peut-être vous-même employé cette expression « je ne suis pas à la hauteur ». Eh bien, donnez-nous votre témoignage. En appelant le 01 56 40 64 04 ou sur notre site franceinter.fr à la page de l'émission « L'inconscient ». Un patient dit à quel point sa honte sociale l'a écrasé, a provoqué chez lui le souhait de disparaître, selon ses propres mots. Il raconte, pris par une grande émotion, comment, lorsqu'il a été admis en seconde dans un lycée parisien prestigieux, il fait d'ailleurs un geste pour marquer des guillemets à ce mot prestigieux, il est entré dans un monde qui n'était pas le sien, un monde qu'il ne connaissait pas et qui, comme il le dit, lui crachait au visage. Je reprends le terme qu'il avait mis entre guillemets avec ses mains, prestigieux, pour lui faire entendre toute la part d'idéalisation que renferme ce terme. Prestigieux, c'est le mot qui trace des lignes de partage social, dit-il. Et il conclut, cela ne veut rien dire d'autre que ça, mais cela me mettait en rage. Je pensais alors à tous ces personnages balzaciens, notamment ce personnage Rastignac dans Le Père Goriot, ce jeune ambitieux rageur et honteux de sa condition peu fortunée, qui, une fois à Paris, lance ce cri à la société parisienne « À nous deux maintenant !» avec la rage envieuse du jeune ambitieux qui désire à tout prix conquérir la société mondaine.
Je voudrais vivre avec excès. J'attends, j'espère arriver.
À quoi ?
À tout.
Lorsque Rastignac réussit, il peut ressentir une forme de triomphe, comme le dit Freud. Freud qui écrit, je le cite, « Il se produit toujours une sensation de triomphe quand quelque chose dans le moi coïncide avec l'idéal du moi. » Chez Rastignac, la honte se transmue en rage de réussir, quels que soient les moyens. Je pense aussi à cette belle page de Romain Gary dans « La promesse de l'aube », lorsque sa mère, fière de son fils aimé, trop aimé peut-être, lui répète qu'il sera un grand homme, exige de lui qu'il soit le grand homme qu'elle attend, et forge ainsi son narcissisme dès l'aube de son jeune âge. L'exigence, les attentes de la mère est de faire de son fils un des grands hommes français. Le talent de sa mère, dit Gary, avait été de lui insuffler cette vitalité, ce désir d'y arriver, mais aussi son angoisse de la décevoir. Être à la hauteur de la fierté de sa mère, tel était l'élan et l'angoisse mêlée de Romain Gary. La mère de Gary lui donne, par son amour un amour de lui-même, un narcissisme nécessaire, mais par ses attentes idéalisées, lui transmet aussi une crainte terrible de la décevoir. Freud écrit, dans un texte en 1923, je le cite, « L'idéal du moi résulte de la plus importante identification, celle aux parents. » Nous pourrions prolonger cette analyse aujourd'hui en disant que cette identification peut être aussi celle de modèles divers et pas uniquement des parents. Elle peut se fixer sur des figures aimées ou idéalisées par l'époque, par les injonctions sociales. Ces injonctions sont liées à une époque et d'ailleurs on peut entendre « il faut réussir socialement, il faut être performant, il faut être riche, beau, connu, etc. » C'est pourquoi Freud peut encore écrire, et je le cite, « Le moi réagit avec des sentiments d'angoisse, qu'il appelle angoisse de conscience, à la perception qu'il est resté en arrière des exigences posées par son idéal. » Car dans la honte, il y a de l'angoisse, parfois mélancolique, de décevoir les attentes de l'autre, l'autre aimé, l'autre idéalisé auquel on s'identifie. Il y a les attentes que l'on imagine. Les attentes sont ce qui pousse le sujet à désirer être ceci ou cela, mais aussi ce qui l'inhibe et l'angoisse. Descartes écrit « La honte est une espèce de tristesse fondée sur l'amour de soi-même et qui vient de l'opinion ou de la crainte qu'on a d'être blâmé. » Je reviens à Romain Gary dans La promesse de l'aube. Après avoir été blessé sur le champ de bataille, le narrateur écrit, je le cite, « Il me fallait tenir ma promesse, revenir à la maison couvert de gloire après 100 combats victorieux, écrire guerre et paix, devenir ambassadeur de France, bref, permettre au talent de ma mère de se manifester. » Romain Gary relate alors la scène où sa mère, devant des officiers, parle de son fils. « Tu seras un héros, tu seras général, tu seras Gabriele D'Annunzio, tu seras ambassadeur de France, tous ces voyous ne savent pas qui tu es. » Je crois que jamais un fils n'a haï sa mère autant que moi à ce moment-là. Mais alors que j'essayais de lui expliquer dans un murmure rageur qu'elle me compromettait aux yeux de l'armée de l'air et que je faisais un nouvel effort pour la pousser derrière le taxi, son visage prit une expression désemparée, ses lèvres se mirent à trembler et j'entendis une fois de plus la formule intolérable devenue depuis longtemps classique dans nos rapports. « Alors, tu as honte de ta vieille mère ?» Une patiente raconte comment sa mère l'auréolait de tous les talents devant ses voisins qui souriaient un peu moqueurs. Elle dit à quel point elle avait de la peine et de la honte car elle aimait cette mère aimante, mais elle la trouvait ridicule à force de vouloir à ce point magnifier sa fille. « J'étais son bijou, dit-elle, et je devais briller de tous les éclats sous peine de la décevoir. Maintenant, quand je dois passer des examens, des épreuves, des entretiens, je suis prise d'angoisse terrible. J'ai peur d'échouer. J'entends les mots de ma mère. » La honte n'est pas à proprement parler une notion psychanalytique. Freud a plutôt développé sa théorie autour de la notion de culpabilité. Selon Freud, la culpabilité a à voir avec un interdit, un acte transgressif. Il est interdit de faire cela, et je le fais. Je me sens coupable de cet acte. La honte, elle, aurait à voir avec l'image que l'on a de soi, l'idéal du moi. Les deux psychanalystes français, Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis, qui ont écrit le vocabulaire de la psychanalyse, mentionnent que l'idéal du moi constitue un modèle auquel le sujet cherche à se conformer. Et Freud dit, je le cite, « L'idéal du moi se construit à partir de modèles très divers chez un individu donné. » La distinction entre idéal du moi et surmoi peut se comprendre ainsi. Le surmoi se forme à partir d'interdits intériorisés. Tu ne dois pas être comme ceci, tu ne dois pas faire cela. Et l'idéal du moi, à partir d'exigences intériorisées. Tu dois être comme, tu dois atteindre cet objectif. On voit la différence, il y a la conscience morale, tu ne dois pas, c'est le surmoi, Et l'exigence morale, l'idéal du moi, tu dois être comme ceci. Eh bien, un trop grand écart entre le moi et l'idéal du moi provoque un sentiment de honte, alors que le sentiment de culpabilité est le résultat d'une transgression, imaginaire ou réelle, des interdits intériorisés. Si le surmoi se constitue par l'intériorisation des exigences et des interdits parentaux, l'idéal du moi se constitue par une identification aux parents comme modèle, que ces modèles soient conscients ou inconscients. Mais à partir des années 20, Freud rapproche le surmoi de l'idéal du moi. Pour lui, il n'y a plus de franche distinction entre ces deux instances. Freud leur assigne trois fonctions. Celle de l'auto-observation, celle de la censure et celle de la conscience morale. C'est pourquoi la culpabilité est l'œuvre du surmoi jugeant le moi, l'accusant des pires maux, l'accablant parfois, alors que la honte est le résultat d'une déception face à l'idéal du moi et aux attentes intériorisées des figures aimées. Freud a pu écrire alors, je le cite, « Le sentiment de culpabilité normale vient de l'idéal du moi, alors que dans les cas pathologiques, le surmoi renforce ce sentiment de culpabilité. » C'est pourquoi Freud peut dire que la conscience morale est aussi nécessaire pour le lien social et la capacité d'agir. Mais quand cette conscience morale est trop lourde, trop cruelle, elle devient pathologique pour le patient.
France Inter, l'inconscient, cette semaine avec Laurie Lefebvre.
Dans le sentiment de culpabilité, le sujet se voit fauté, transgressé. Il doit se cacher de l'autre. Dans la honte, le sujet se voit chuter dans le regard de l'autre. Dans la culpabilité, on a peur d'être pris. Dans la honte, on a peur d'être vu dans une nudité morale. Nudité morale, c'est le terme qu'emploie le philosophe Frédéric Gros dans un très bel ouvrage qu'il vient d'écrire. La honte est un sentiment révolutionnaire. L'expression « c'est la honte, quelle honte, shame on you » montre bien la différence avec la culpabilité. On ne dit pas « c'est la culpabilité ». On ne dit pas « rougir de culpabilité », mais bien « rougir de honte, mourir de honte ». La honte est un affect qui atteint aussi le corps. La honte est un affect au sens où elle agite autant le psychisme que le corps. Un affect qui chahute le corps au même titre que le dégoût ou l'angoisse, par exemple. Mais elle diffère de cette dernière en ceci que si l'angoisse est présente dès les premiers temps de la vie, la honte survient plus tard, au moment précisément de la conscience morale. C'est un effet de culture, écrit Freud. L'autrice Annie Ernaux évoque magnifiquement dans son livre « La honte » ce qu'il en est de cet affect qui saisit le corps, de cette auto-observation et de cette hyper-vigilance qui ne lâche plus la petite fille, sidérée qu'elle est par une scène violente entre ses parents, figure idéalisée. Elle raconte que petite, elle a vu son père voulant tuer sa mère. Elle écrit « Aucune phrase signifiant notre place dans la société ne m'échappait donc plus. Tout de notre existence est devenu signe de honte. La pissotière dans la cour, la chambre commune, où selon une habitude répandue dans notre milieu et due au manque d'espace, je dormais avec mes parents. Les gifles et les gros mots de ma mère, les clients ivres et les familles qui achetaient à crédit. Il était normal d'avoir honte. » Comme d'une conséquence inscrite dans le métier de mes parents, leurs difficultés d'argent, leur passé d'ouvrier, notre façon d'être. Dans la scène du dimanche de juin, la honte est devenue un mode de vie pour moi. À la limite, je ne l'apercevais même plus, elle était dans le corps même. Annie Ernaux poursuit. J'ai mis au jour les codes et les règles des cercles où j'étais enfermée. J'ai répertorié les langages qui me traversaient et constituaient ma perception de moi-même et du monde. Nulle part il n'y avait de place pour la scène du dimanche de juin. Cela ne pouvait se dire à personne, dans aucun des deux mondes qui étaient les miens. Nous avons cessé d'appartenir à la catégorie des gens corrects, qui ne boivent pas, ne se battent pas, s'habillent proprement pour aller en ville. Je pouvais bien avoir une blouse neuve à chaque rentrée, un beau missel, être la première partout et réciter mes prières. Je ne ressemblais plus aux autres filles de ma classe. J'avais vu ce qu'il ne fallait pas voir. Je savais ce que, dans l'innocence sociale de l'école privée, je n'aurais pas dû savoir et qui me situait de façon indicible dans le camp de ceux dont la violence, l'alcoolisme ou le dérangement mental alimentaient les récits conclus par « c'est tout de même malheureux de voir ça ». Je suis devenue indigne de l'école privée, de son excellence et de sa perfection. Je suis entrée dans la honte. Un autre auteur, Didier Héribon, philosophe, dans son ouvrage « Retour à Reims », avait indiqué qu'il avait eu plus de difficultés à parler de ses origines sociales que de son homosexualité. Il écrit « Il me fut plus facile d'écrire sur la honte sexuelle que sur la honte sociale ». Tous ces extraits nous montrent comment on a pu dire que la honte était une émotion morale, qui appartient à la classe des émotions conscientes d'elles-mêmes. Il y a comme une double conscience dans la honte, au point où le regard de l'autre ou l'allusion de l'autre signifie sans dire. L'autre peut être celui qui, par sa parole, couvre le sujet de honte. C'est encore Annie Ernaux qui l'écrit avec une précision clinique. Parlant de son institutrice, elle écrit « Un jour, elle m'a reproché la forme de mes M, dont je recourbe le premier jambage vers l'intérieur à la façon d'une trompe d'éléphant, ricanant « cela fait vicieux ». J'ai rougi sans rien dire. Je savais ce qu'elle voulait me signifier et elle savait que je le savais. Vous dessinez le M comme un sexe d'homme. Rien n'a besoin de se dire. Elle savait que je savais et la honte saisit le corps. Lors d'une séance, un patient me dit « J'étais aussi amoureuse de cette femme. » Je relève le mot « aussi » et tout d'un coup, il se met à rougir et bafouiller. J'entends son malaise, il devient muet. Je le relance, il me répond « J'ai honte. » Il ne me dit pas de quoi et il s'est enfermé dans la honte. Comme l'écrit encore Annie Ernaux, « Le pire dans la honte, c'est qu'on croit être seul à la ressentir. » Elle écrit encore « Il y a ceci dans la honte, l'impression que tout maintenant peut vous arriver, qu'il n'y aura jamais d'arrêt, qu'à la honte, il faut plus de honte encore. » Les effets de la honte peuvent être multiples. La tristesse, l'inhibition, la mélancolie, le fait de passer à côté de son propre désir, il y a des effets de rage et de vengeance, mais aussi des effets de révolte, de colère, qui permettent une conscience morale et un soulèvement. C'est ce que Frédéric Gros, le philosophe dont j'ai parlé, relève dans l'expression de cet autre philosophe italien, Primo Levi, philosophe qui a été fait prisonnier dans les camps de concentration. L'expression de Primo Levi est « avoir la honte du monde ». Mais avant de revenir sur cette expression « la honte du monde », voyons d'abord des cas extrêmes où la honte devient une rage dévastatrice, destructrice. Une honte de soi qui se transforme en haine du monde.
I that am curtailed of this fair proportion, cheated of feature by dissembling nature, deformed, unfinished, sent before my time into this breathing world, scarce half made up, and that so lamely and unfashionable that dogs bark at me as I halt my head.
Richard III est un des rois d'Angleterre connus pour son physique monstrueux. Seule son ambition d'être roi semble pouvoir le soulager de cette honte. Il laisse mourir son frère Édouard, fait assassiner son autre frère Georges qui devait succéder à Édouard sur le trône, fait assassiner ses neveux et sa femme Anne. Shakespeare, dans sa pièce Richard III, relate ce que la honte de ce physique provoque de haine et de rage chez ce roi que rien ne semblera arrêter. Voici ce que Shakespeare lui fait dire. Mais moi qui ne suis pas formé pour ces folâtres jeux, ni fait pour courtiser un amoureux miroir, moi qui suis marqué au sceau de la rudesse et n'ai pas la majesté de l'amour pour m'aller pavaner devant une impudique nymphe minaudière, moi qui suis tronqué de nobles proportions, floué d'attrait par la trompeuse nature, difforme, inachevé, dépêché avant terme, dans ce monde haletant à peine à moitié fait, si boiteux et si laid que les chiens aboient quand je les croise en claudiquant, eh bien moi, en ce temps de paix alangui à la voix de Fosset, je n'ai d'autre plaisir pour passer le temps que d'épier mon ombre au soleil et de fredonner des variations sur ma propre difformité. Et donc, si je ne puis être l'amant qui charmera ces jours si beaux par l'heure, je suis déterminé à être un scélérat. C'est la honte qui rend scélérat, une honte devenue haine de soi qui se transforme en haine des autres et qui ravage tout sur son passage. Dans une autre perspective, on pense également à ce fait divers, celui de Jean-Claude Roman, qui a donné matière au film L'Adversaire et au roman du même nom écrit par Emmanuel Carrère. Jean-Claude Roman est un homme qui a fait croire à toute sa famille qu'il était médecin, alors qu'il avait raté les concours de médecine. Il disait à tous qu'il travaillait à l'OMS à Genève, alors qu'il passait son temps à dormir dans sa voiture sur un parking. Pris de honte et d'angoisse au moment d'être démasqué, déshonoré, vidé de lui-même, il assassine toute sa famille et tente de se suicider. Tout se passe comme s'il ne pouvait pas imaginer que ce qu'il voulait tenir caché devienne public. Tout se passe comme s'il ne pouvait imaginer vivre dans la honte et que la honte lui survive. On entend parfois des patients pris dans une volonté de vengeance, de revanche, comme si cette énergie parfois violente était la seule énergie possible pour laver le déshonneur, laver la honte vécue. On peut penser que parfois la honte rageuse s'estompe quand le désir de revanche disparaît. Une vie entière est passée à se venger, à laver l'injure, et cette vengeance souhaitée sera sans cesse le signe, la volonté inassouvie de cette honte qui touche l'image et l'honneur. Une vengeance imaginée comme Don Diègue dans le Cid de Corneille. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? Ô cruel souvenir de ma gloire passée, œuvre de tant de jours en un jour effacée, faut-il de votre éclat voir triompher le comte et mourir sans vengeance ou vivre dans la honte ? Combien de Don Diègue commettent des actes par vengeance ? Par revanche sociale. Je veux être admiré, me dit un patient. C'est la seule façon de ne pas me haïr, me dit-il. Mais mourir sans vengeance ou vivre dans la honte, est-ce la seule alternative ? La honte n'est pas toujours un affect ravageur et dévastateur pour le sujet. On l'a entendu avec Freud, elle permet aussi d'accéder à une conscience morale nécessaire. À une certaine conscience de soi et des autres, à une conscience du monde, donc. C'est pourquoi on peut dire que c'est aussi un affect éthique qui permet un certain rapport au monde. Le philosophe Frédéric Gros, dont j'ai déjà parlé, écrit, je le cite, « Ce qui nous donne la force de désobéir, de ne pas nous résigner à ce pire qui devient chaque jour le plus sûr, de garder du tact, de garder une capacité de révolte, c'est pour reprendre l'expression de Primo Levi, la honte du monde. La honte est un composé de tristesse et de rage. On ne la dépasse pas, quoi que puissent promettre les managers de l'âme. On la transforme en lui donnant la forme de la colère. Non, on ne dépasse jamais les hontes, on les travaille, on les élabore, on les subtilise, on les sublime. On finit même parfois par s'en faire des leviers, des complices, des ressorts. On les essore, on les purifie, afin d'éliminer ce qu'elles peuvent contenir de tristesse destructrice, de mépris de soi, et de ne retenir que la part pure de la colère. Ces moments de colère sont donc nécessaires au travail de la honte. Le travail au même sens où Freud l'emploie pour parler du travail du rêve ou du travail de l'inconscient. Il y a des hontes qui se subliment en fierté, en capacité d'agir. On pense par exemple à la gay pride, où la honte vécue par tant de personnes de manière isolée se transforme en fierté collective et joyeuse. Une patiente me dit un jour, lors d'une séance, « Est-ce qu'on peut porter plainte contre son inconscient ?» Je souris à cette phrase et lui demande quelle est la plainte qu'elle souhaite déposer. Elle ne répond pas, reste silencieuse et après quelque temps dit « J'ai honte de le dire ». Je garde le silence et après un long moment, elle poursuit « Mes rêves sont honteux. J'ai rêvé que je couchais avec la jeune fille de ma meilleure amie. » Freud fait l'analyse suivante. La honte de nos désirs crée le refoulement. C'est parce que nos désirs sont honteux qu'ils sont oubliés, refoulés. Cette honte est donc nécessaire pour nous parler un peu plus le langage de notre inconscient. Il s'agirait donc de ne pas céder sur la honte, mais plutôt d'apprendre d'elle. Dans son séminaire, qui s'appelle « L'envers de la psychanalyse », Lacan se réfère à la honte. Il appelle de ses voeux que la psychanalyse produise une ontologie, orthographiée enfin correctement. Lacan joue sur la proximité sonore des deux mots, ontologie et honte, et ajoute un H. Ontologie, cela voudrait dire non pas vivre dans la honte, inhibé, triste et vengeur, mais vivre avec une certaine conscience du monde, une honte du monde qui nous donne une puissance d'agir. Faire de sa honte une force. Donc, la capacité de transformer une situation qui empêche et entrave en une situation où l'on retrouve le mouvement, la fierté et la liberté d'être ce que l'on désire. Restez à l'écoute. Dans un instant, je répondrai à toutes vos questions, mais tout de suite, voici Voyou, d'amour et d'insouciance sur France Inter.
Je m'ennuie à mourir depuis ce matin. J'ai dans la tête des idées bêtes, je pense à rien. Je regarde le vide, sauf quelquefois, où le soleil s'invite à ma fenêtre et change la poussière en paillettes. Seul dans mon lit, ça me rend heureux d'écrire des chansons sur ces instants merveilleux. Et dans mon fort intérieur, j'ai le temps de regarder pousser les fleurs. Ah, 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 non, je n'ai rien d'autre à faire, rien à détruire et personne à qui plaire. Je vis de presque rien, d'amour et d'insouciance, et l'ennui me du bien d'être immobile, couper les lignes et voir enfin tout ce qui s'anime dans les recoins, les fourmis rouges, le ciel qui bouge à peine, les nuées de crachin. Pourquoi toujours vouloir faire mieux, travailler tard pour quelques sous, qu'on ira boire pour être sous, pour aller mieux, mais mieux que quoi? Ça me suffit de brasser l'air avec mes bras. Et dans mon fort intérieur, j'ai le temps de regarder pousser les fleurs. Ah, 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 non, je n'ai rien d'autre à faire, rien à détruire et faire.
sur France Inter dans l'inconscient. C'est à vous maintenant, je vous écoute.
Bonjour Madame Lofer, je m'appelle Marion. J'aimerais savoir si vous pouvez dire quelque chose de la transformation de la honte en un levier. Je vois la honte sur le plan physique comme quelque chose qui nous colle au corps, quelque chose de gluant. Et si on en fait un levier, c'est quelque chose qu'on pourrait détacher de notre corps et rendre très solide pour déplacer des choses et mettre en mouvement quelque chose. Est-ce qu'on peut dire quelque chose de manière générale à ce sujet-là? Est-ce qu'il y a des voies privilégiées pour une telle transformation? Eh bien, je vous remercie d'avance pour votre réponse. Au revoir.
Merci Marion pour votre question. En fait, votre question me fait penser, la question du levier de la honte, me fait penser à la nécessité parfois dans certaines situations, qui sont des situations que le sujet peut avoir vécues et qui lui fait honte, la nécessité de créer un collectif, du commun. Je pense par exemple à des associations de femmes violentées, agressées, exposées à des violences et qui ont besoin de se retrouver, de se regrouper, de faire du commun pour précisément éviter d'être seules dans leur propre honte. Donc parfois, un levier, c'est aussi un collectif.
Bonjour, je m'appelle Mila et je voudrais adresser mes questions à Laurie Lofer sur son épisode sur la honte. J'ai trois questions, mais je vais essayer d'être assez succincte. Donc d'abord, quand la culpabilité est plus objectale dans un lien à l'autre, vous l'avez dit, avec toute la dimension de transgression qu'elle porte, la honte, elle, serait plus narcissique, d'après un certain nombre de psychanalystes. Entre soi et soi, ce qui illustre très justement, comme vous le citez dans votre épisode, Annie Ernaux, autour de la solitude de la honte, ou la solitude dans la honte. Narcissique donc, mais intimement lié à la question du regard. Vous l'avez dit aussi. Le regard de l'autre sur soi, le regard de soi sur soi. Dimension scopique, tout était présent dans la honte. Et de ce regard, je ne peux m'empêcher de penser à la proposition de Winnicott, qui pense le regard de la mère comme premier miroir narcissique pour l'enfant. Je me demandais donc si nous pouvions penser la honte dans une dimension plus archaïque que celle prise dans l'idéal du moi surmoïque et donc oedipienne. Ensuite, je voulais savoir si vous pouviez dire quelques mots de la dimension d'après-coup dans la honte. L'après-coup en ce sens qu'il s'agit tout de même d'un affect assez intemporel, dans la mesure où une expérience de honte vécue préalablement dans le passé peut se revivre avec tout autant d'intensité affective dans l'après. Enfin, une autre association, et la dernière, où j'aurais aimé avoir votre avis concernant l'expérience de honte dans les rêves. Je pense notamment à ces rêves courants au temps de l'enfance où l'on peut se rêver aller en pyjama, voire nu à l'école ou dans des lieux publics. Tout autant d'illustrations de la honte dans le rêve à ce que disait ce philosophe que vous citez aussi autour de la nudité de la honte. Je vous remercie pour votre réponse, pour le podcast et au plaisir de vous écouter. Au revoir.
Merci beaucoup Mila pour ces diverses questions très passionnantes qui montrent bien que à la fois vous êtes très intéressée par la psychanalyse et que vous en avez une approche et un savoir théorique tout à fait important. Je ne sais pas si vous êtes étudiante en psychologie. En tout cas, merci beaucoup pour vos questions passionnantes. Je vais commencer par la troisième de vos propositions, de vos questions. Sur la question des rêves, il y a une chose que Freud dit et qui me semble tout à fait intéressante lorsqu'il dit, par exemple, que c'est l'interprétation des rêves qui est la voie royale vers l'inconscient. Et que donc, il peut y avoir un sentiment de honte à l'intérieur d'un rêve, mais c'est lorsque le rêveur va commencer à interpréter, à parler de son rêve, que la question de la honte va pouvoir émerger. Parce que c'est dans le langage, c'est dans l'interprétation qu'il va faire que va se manifester, que peut se manifester ce sentiment, qu'il faudra bien sûr analyser et interpréter. Donc ça, c'est un point qui est tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, effectivement, Freud, dans l'interprétation des rêves, montre très bien comment, dans certains rêves, il peut y avoir des sentiments de nudité, d'être à nu. Et être à nu, c'est souvent, parfois, en tout cas pas toujours, mais parfois, donne souvent un sentiment de honte. L'autre question que vous posez est sur l'après-coup. Oui, là aussi, vous avez raison, c'est très important et très intéressant. Il peut y avoir des effets de trauma, de traumatisme dans un épisode de honte. Un épisode qui n'est pas passé, par exemple. Donc, comme on le sait, ce qui est important dans, dans le traumatisme, c'est souvent l'après-coup. C'est dans l'après-coup que quelque chose peut remonter. Donc il peut y avoir comme un sparadrap, en fait, qu'on a encore collé dans la main et qui, c'est le capitaine Haddock, je crois, à son sparadrap dont il n'arrive pas à se débarrasser. Et il peut y avoir, bien sûr, des après-coups, des choses qui irriguent, comme ça, qui sont là, lancinantes. Et puis enfin, pour votre dernière question, très technique, je ne vais pas beaucoup m'étaler là-dessus, parce que là, ça nous renverrait à des choses un peu métapsychologiques, un peu complexes, un peu techniques de la psychanalyse. Mais il y a des auteurs, comme Mélanie Klein ou comme Winnicott, dont vous parlez, qui ont travaillé, effectivement, sur la question de l'archaïque et notamment aussi sur la question du surmoi archaïque. Voilà, merci beaucoup Mila pour ces questions, elles sont passionnantes.
Bonjour, moi je me demandais s'il n'y avait pas aussi une lecture plus globale de la honte, et voilà, à une échelle plus large, sociale, de la honte justement, parce que vous expliquez bien ce qui se passe à l'échelle individuelle, d'un point de vue psychanalytique, mais j'ai quand même l'impression que au-delà de tout ce qui peut se passer à l'échelle de notre petite personne, disons, ça vient quand même s'inscrire dans une société pleine de normes, pleine de catégories, et j'ai un peu l'impression qu'il y a quand même dans cette société des échelles, disons, de la honte, avec des catégories sociales qui vont être plus à même que d'autres d'éprouver cette honte. J'ai l'impression que les femmes ont plus honte que les hommes, que les pauvres ont plus honte que les riches, que en fonction de son corps, de tout ça, on est plus à même de l'éprouver, cette honte. Et je voulais savoir si ça s'expliquait d'un point de vue psychanalytique ou voilà, sinon. Et est-ce que il faut l'expliquer d'un point de vue psychanalytique ou pas? Voilà, merci.
Merci beaucoup, Justine, pour votre question très intéressante. En fait, ce que vous développez là, et qui me paraît important, c'est de montrer comment Freud, dans l'invention de la psychanalyse, montre bien comment la psychologie individuelle n'est pas à séparer de la psychologie sociale. Lorsqu'il développe la question du surmoi, par exemple, dans son ouvrage « Malaise dans la civilisation », il montre bien que l'individu intériorise un discours social, intériorise des injonctions normatives. Et ces normes vont produire chez lui un certain nombre de ressentis, dont la honte. Alors, effectivement, vous dites, la honte va avec les catégories sociales, et ces catégories, elles vont être tout à fait différentes en fonction des époques, des pays, des personnes concernées. Vous allez avoir, par exemple, des discours qui vont être très prégnant dans une époque. Aujourd'hui, il est important d'être performant, d'être riche, vous le dites, d'être en bonne santé. Donc, tous ces discours, qui sont les discours d'une époque, on pourrait dire des discours néolibéraux, par exemple, eh bien, peuvent produire chez certaines personnes un sentiment de honte. Donc, on voit bien là l'articulation qu'il y a entre le social et l'individuel.
France Inter, l'inconscient. Cette semaine, avec Laurie Lefer.
Et nous poursuivons nos échanges à l'écoute de vos questions.
Voici ma question concernant votre émission sur la honte. Est-il possible d'être fier d'avoir surmonté sa honte, de l'avoir dépassée? Et si cela n'est pas possible, mettre la honte et la fierté en équilibre ne serait-il pas un résultat désirable? Je vous remercie.
Merci beaucoup Gilles pour cette question, très intéressante. Et j'aime beaucoup l'idée que vous développez là de cet équilibre entre la honte et la fierté. Parce qu'après tout, comme j'ai voulu le montrer un petit peu dans l'épisode, dans l'émission, c'est aussi important d'avoir un peu honte, parce que ça relève de la conscience morale. Imaginez quelqu'un qui n'ait jamais honte de rien. Qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, effectivement, lorsque la honte, elle est trop entravante, trop neutralisante, lorsqu'elle empêche l'individu de faire des choses ou d'avoir une certaine image de lui qui lui permet de faire, d'accomplir un certain nombre de choses, lorsqu'elle est, de ce point de vue-là, trop, entravante, comme je le disais, eh bien, comme vous le dites, un équilibre avec la fierté est à travailler. On le voit bien dans des retournements du stigmate, comme on dit, hein, avec la gay pride, par exemple. où il s'agit d'être fier d'une certaine position ou d'une certaine sexualité, notamment pour les gays, pour éviter justement un stigmate de la honte. Donc cet équilibre entre honte et fierté me paraît tout à fait intéressant.
Bonjour, c'est Élise. J'ai une question pour Laurie Lofer concernant l'émission sur la honte qui était fort intéressante. Voilà, je voulais savoir comment on guérit de la honte. Qu'est-ce qui est proposé pour guérir de ces hontes? Est-ce que le fait de le dire, de les nommer, suffit à ce qu'elles disparaissent? Voilà. Est-ce que vous pourriez détailler ce sujet? Et encore merci pour vos super émissions. À bientôt.
Merci beaucoup, Élise, de votre question. Alors, dire sa honte n'est pas toujours suffisant, parce qu'évidemment, il ne suffit pas simplement de dire quelque chose pour que cette chose disparaisse. Mais c'est déjà nécessaire. Ça n'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. Car, comme j'ai voulu le montrer dans l'émission, on peut se sentir seul avec sa honte. Alors, voyez l'exemple de Annie Ernaux, c'est intéressant, parce qu'elle, elle l'écrit. Elle écrit, elle produit quelque chose, elle fabrique quelque chose. Donc, le dire, oui, c'est important. Produire quelque chose, c'est aussi important. Et produire, ça peut être une œuvre, mais ça peut être, encore une fois, ça peut être un collectif, ça peut être du commun, ça peut être... Il y a d'autres leviers pour, je ne sais pas s'il s'agit de guérir de la honte, parce que je crois aussi avoir montré que la honte est parfois nécessaire. Hein? Donc, ce n'est pas toujours une maladie. C'est une maladie quand elle m'empêche de vivre. Mais quand elle me fait prendre conscience de l'état du monde, par exemple, elle est nécessaire. Voilà. C'est ce que Primo Levi appelait la honte du monde. Voilà. On peut avoir honte, à un moment donné, du monde dans lequel on vit. Quoi.
Bonjour, je m'appelle Angèle, j'habite à Paris. Ceci est une question, une réaction au podcast de Madame Lofer sur la honte. Alors, il me semble que la honte est une très, très mauvaise compagne de route. En fait, d'après ce que j'ai pu observer, si un sentiment de honte arrive, il est très souvent dicté par l'extérieur. Donc, il me semble sage, quand ça nous arrive... quand ça peut nous arriver, d'interroger ce sentiment, de se demander « mais pourquoi on a honte ? Qu'est-ce qui nous fait honte ? Qui a dit que ceci ou cela était honteux ?» Je vais vous donner deux exemples. J'ai passé les premières années de ma vie dans un endroit où toutes les petites filles avaient les oreilles percées et on mettait à toutes les petites filles des créoles. Et puis plus tard, peut-être 15 ans plus tard, je me suis retrouvée à Paris et j'ai entendu... les gens m'expliquaient à quel point c'était absolument honteux d'avoir les oreilles percées tout court, et particulièrement quand on était petite fille, parce que c'est vraiment un signe d'une drôle d'appartenance sociale. Même genre de commentaires pour les hommes qui portent des chemises à manches courtes. J'ai écouté tout ça méduser, et à chaque fois j'ai répondu que tout ça c'était quand même éminemment social et culturel, et que ça dépendait d'où on venait. C'était à certains endroits peut-être honteux, mais à d'autres pas du tout. Donc il me semble quand même que plus on s'éloigne des injonctions dictées par la famille, le groupe ou la société, et plus la honte s'éloigne. Qu'en pensez-vous ? Merci.
Merci beaucoup Angèle pour ce témoignage et votre question. Oui, vous avez absolument raison, il y a une part de normes sociales très forte dans la honte. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement, comme vous le soulignez, social et culturel. Mais je trouve intéressant votre question, c'est-à-dire d'interroger et se demander pourquoi on a honte. C'est-à-dire, on a honte de quoi ? On a honte devant qui ? C'est-à-dire, ça nous permet d'interroger quelle est la nature du regard qu'on a intériorisé. Parce que c'est ça aussi qui peut nous donner à comprendre quelque chose de la façon dont on a intériorisé ce que la psychanalyse appelle un surmoi. Parce que le surmoi, il peut être très cruel aussi. Hein, c'est-à-dire, c'est l'instance qui nous donne des injonctions à être ceci ou cela. Donc vous avez absolument raison, c'est très important de temps en temps de se demander pourquoi on a honte. Mais je le redis, elle peut être, comme vous le dites, une mauvaise compagne de route, mais aussi... une alerte, hein, une alerte qui de temps en temps peut nous être nécessaire.
Bonjour. Merci d'avoir fait de la place à la colère dans votre sujet. J'ai le sentiment que la honte, ça reste pour toujours une fois que ça a surgi, surtout quand c'est construit par et pour un système. En fait, qu'est-ce qu'il y a de plus émancipateur que la colère comme stratégie de défense contre ce qui est des tentatives d'anéantissement, en fait? Je vois pas d'autres stratégies. Et vous? Moi, lire Désintégration d'Emmanuel Richard, ça m'a galvanisée sur ce sujet. Merci.
Merci Maëlle de votre question. Tout à fait d'accord avec vous. La colère, c'est aussi une façon de regarder ce qui nous entoure. Et c'est pourquoi je disais que avoir honte devant des situations qui nous mettent en colère, c'est une possibilité d'agir sur ce qui nous met en colère dans le monde, ou vis-à-vis des personnes qui sont en danger, ou qui sont malmenées, ou vis-à-vis de soi-même. La colère peut être un certain levier, comme vous le dites, émancipateur, face à certaines choses que nous trouvons inacceptables.
J'avais lu quelque part qu'au Japon, il y a le plus haut taux de disparition dans le monde. Et il suggérait par là qu'en fait, dans ce pays, la honte, entre guillemets, n'est pas envisageable. Et ça me faisait penser au fait qu'effectivement, suivant les pays et les cultures, vivre la honte a plus ou moins de conséquences.
Merci beaucoup Aline pour votre question. Alors, je ne suis pas spécialiste du Japon, mais effectivement, ce que vous dites est très important parce qu'on voit bien qu'en fonction des pays, en fonction des cultures, le comportement que nous pouvons avoir, le comportement, en tout cas le sentiment de honte, peut être tout à fait différent. C'est-à-dire, perdre la face, comme vous le dites au Japon, ça peut être terriblement douloureux pour une personne. Il y a dans d'autres cultures d'autres éléments, d'autres signes, d'autres symboles qui peuvent manifester de la honte. Donc ça montre bien comment ce sentiment-là, qui dépend toujours du regard que l'on a intériorisé et des discours que l'on a intériorisés, ça montre bien que ce sentiment est aussi social qu'individuel. Merci pour vos questions et merci à David Diboué-Black à la technique, à Juliette L'Orphelin pour le choix de la musique, à Franck Olivard qui récolte vos questions et à Jérôme Boulet à la réalisation. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Clotilde Le Guil. D'ici là, vous pouvez déjà écouter son podcast sur toutes les plateformes, dans l'application Radio France ou sur notre page internet L'Inconscient sur franceinter.fr et lui laisser des messages par note vocale ou sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 26 novembre pour vous parler de l'identité avec Romain Gary.